franceinter.com.
Des unités supplétives seront chargées de participer aux opérations locales. Ces unités porteront la dénomination de Arca. Commandement de l'armée en Algérie, 8 février 1956. Mille ans d'histoire. Lorsqu'en 1956, la France avait créé des unités de supplétifs algériens pour se battre aux côtés de l'armée française, personne n'imaginait ce qui allait suivre. Persuadé que l'Algérie resterait française, personne ne se rendait compte que si elle devenait un jour indépendante, ces harkis, comme on les appelait, risquaient d'être les victimes de ceux qu'ils avaient combattus. C'est ce qui s'est passé en 1962, lorsqu'après les accords d'Évian, des dizaines de milliers de harkis ont été massacrés ou contraints de se réfugier en France. Depuis 50 ans, ils y vivent sans pouvoir retourner dans leur pays d'origine où ils sont considérés comme des traîtres. Indésirables en Algérie, mal accueillis en France, les harkis ont dû attendre longtemps avant que la France reconnaisse le drame de ceux qui s'étaient battus à ses côtés pendant la guerre d'Algérie. France 2, Antoine Cormery dans le journal de 13h, le 30 août 2001.
39 ans après la signature des accords d'Évian, la France décide de créer une journée nationale d'hommage aux harkis. Bien maigre consolation pour ces hommes et ces femmes qui avaient choisi de se battre pour la France pendant la guerre d'Algérie. Beaucoup d'entre eux, abandonnés à leur sort, ont été massacrés en Algérie et ceux qui ont trouvé refuge en France n'y ont jamais reçu la reconnaissance qu'ils pouvaient espérer. Paul de Genève.
Manifestation, émeute, grève de la faim, les harkis n'ont eu de cesse d'interpeller le gouvernement sur leur sort, obtenir la reconnaissance de la France. Du côté algérien, ils savent qu'ils sont toujours considérés comme des traîtres. En visite officielle à Paris en juin 2000, le président algérien Bouteflika se charge de le leur rappeler.
C'est exactement comme si on demandait à un Français de la résistance de toucher la main à un collabo.
De son côté, la France semble enfin prête à ouvrir ce dossier douloureux de la guerre d'Algérie.
Il est temps de dire que la France n'a pas su, alors qu'elle l'aurait dû, protéger la dignité et quelquefois même l'existence de celles et de ceux qui l'ont servi, ni par la suite leur réserver une place reconnue dans notre histoire et dans notre société.
Jean-Jacques Jordi, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en duplex d'Aix-en-Provence. Vous avez écrit il y a quelques années un livre sur les harkis et vous êtes un des auteurs d'un dossier de la revue Historia ce mois-ci sur intitulé « Harkis pour en finir avec les tabous ». Pourquoi l'histoire des harkis est-elle encore, ou en tout cas est-elle restée si longtemps, un tabou ?
Parce que je crois que d'un côté comme de l'autre, du côté français comme du côté algérien, on n'a pas intérêt à trop mettre en avant cette histoire-là, parce que d'un côté, ça bouleverse un peu les plans de l'Algérie indépendante, et puis de l'autre côté, l'attitude de la France qui a abandonné ses harkis et qui les a livrés finalement au massacre, hein, c'est pas non plus très glorieux. Donc on a depuis 1962, mis une sorte de chape de plomb sur cette histoire-là, et finalement... Elle éclate depuis quelques années maintenant.
Alors vous rappelez dans ce dossier d'Historia que la France n'a pas attendu la guerre d'Algérie pour créer des unités supplétives en Algérie. Elles existaient dès le début de la conquête de l'Algérie au XIXe siècle, Jean-Jacques Jordi.
Oui, ça c'est une histoire déjà bien connue, c'est-à-dire que dès 1830, la France va essayer de rallier sous le drapeau français, on va dire, des tribus. Hein, qui vont leur permettre de lutter efficacement contre les autres tribus et d'aller vers la conquête globale et complète de l'Algérie. Donc on a comme ça des tribus qui prêtent allégeance, hein, et qui sont recrutées. Et puis la France va aussi créer des corps d'armée, hein, les Zouaves par exemple, hein, même si après ça va s'européaniser, mais les Zouaves sont avant tout un corps uniquement composé, comme on l'appelait alors, d'indigènes.
Et chargé de coloniser leur propre pays, en quelque sorte.
Tout à fait, oui. De coloniser leur propre pays et d'aider à la conquête française de ce pays-là. Hein.
Alors, il y a eu aussi, vous le rappelez, ce qu'on appelait les Turcos, qui étaient les futurs tirailleurs algériens.
Oui.
Et les Goums aussi en 1907.
Oui, alors les Turcos, bon, c'est assez bien connu parce qu'ils étaient déjà impliqués du côté des Turcs, hein, de l'Empire ottoman. Les Goumiers viennent d'abord d'Algérie, et puis après, ça va être le Maroc qui va récupérer cette appellation. Mais les Goumiers sont au départ des indigènes algériens que la France récupère, que l'armée française récupère.
Et puis alors, il y a eu les deux guerres mondiales au cours desquelles on a fait appel justement à ce qu'on appelait des indigènes, justement, venus de presque toutes les colonies françaises, dont l'Algérie. Vous évoquez un chiffre qui est assez considérable, même 87 000 Algériens se sont battus en France pendant la Première Guerre mondiale.
Oui, parce que la conscription commence en 1912. Et en 1914, effectivement, l'Algérien indigène va se trouver pris dans cette Première Guerre mondiale, et la France va largement puiser dans les Algériens pour venir défendre la mère patrie. Et ça va se continuer après avec la Seconde Guerre mondiale, où là on aura près de 180 000 hommes qui vont venir défendre cette mère patrie.
Et qu'on retrouvera dans des combats importants, notamment à la fin de la guerre, dès le début d'abord de la guerre, avec au moment justement de la campagne de France, lorsque les Allemands envahissent la France. On les retrouvera ensuite dans l'armée du maréchal Juin et pour la libération de la France avec Delattre. Et puis alors, on retrouve même des Algériens se battant en Indochine, dans l'armée française. Il y en avait même à Dien Bien Phu.
Oui, parce que faut dire que l'armée française a toujours eu cette capacité à intégrer des gens de tout pays, finalement, et des pays colonisés en premier lieu. Et donc, ceux d'Algérie qui étaient dans l'armée régulière française, à partir de 45, 46 et jusqu'en 54, des corps d'armée vont se battre en Indochine. Et dans cette armée-là, il y a bien évidemment des Algériens.
Alors des Algériens, avant qu'apparaissent en Algérie même, lorsque cette guerre d'Indochine se termine en 54 et que commence la guerre d'Algérie, et lorsqu'apparaissent les premières unités de harkis.
C'est dans le petit village de Poix, situé à quelques kilomètres de Gemmap, dans l'arrondissement de Philippeville, que sont rassemblés ce soir quelques 800 harkis venus de tous les points de la région à l'occasion de la fête de l'Aïd Fitr, qui marque la fin du Ramadan. Au moment où je vous parle, les harkis sont rassemblés autour des feux au-dessus desquels cuisent les fameux méchouis, ces moutons que l'on fait cuire entiers à la broche en les enduisant de graisse. Les harkis chantent et dansent, et ils sont là rassemblés autour des feux à la lueur des torches, leurs fusils pointés vers le ciel, car ils ont conservé pour la plupart l'arme à la bretelle. Et il faut reconnaître que c'est un spectacle absolument intéressant de voir ces harkis qui chantent et qui dansent dans sur ce sol d'Algérie pour faire troubler.
Et c'était donc un reportage de la RTF en Algérie en 1958. Que signifie le mot harki, Jean-Jacques Jordi ?
Le mot harki est un mot arabe qui veut dire le je bouge, le mouvement. Donc un harki, c'est quelqu'un qui bouge, et il s'inscrit dans une harka, donc un groupe de 20-25 personnes qui bouge. C'est véritablement le nom, mais ce terme harki, qui est devenu en France un terme générique, regroupe une quantité de personnes, que ce soit les Morazni,
les Morazni qui étaient chargés du maintien de l'ordre,
oui, plutôt, tout à fait, du maintien
plutôt de la police, quoi, enfin,
oui,
le rôle de police.
Oui, une sorte de police, oui. Mmh. Voilà. Après, nous avions les groupes mobiles de sécurité ou les groupes mobiles de protection rurale. On pourrait dire, c'est un peu l'équivalent de la gendarmerie, ça pourrait être ça.
Créé par François Mitterrand, qui était ministre de l'Intérieur en 1955 et un ardent partisan de l'Algérie française.
Tout à fait. Il a toujours montré que l'Algérie devait être française et allait rester française.
Il y avait même d'ailleurs des harkis, des supplétifs algériens qui ont été appelés en France pour lutter contre le FLN en France et les forces de police auxiliaire, Jean-Jacques Jordi.
Alors, ces forces de police auxiliaire, on les a appelées aussi les harkis de Paris, parce qu'en fait, ce sont un petit corps qui a été créé pour lutter très efficacement contre la mainmise que le FLN était en train de mettre dans certains quartiers parisiens, en particulier le 18e arrondissement.
Et puis alors, donc, il y avait également des groupes d'autodéfense villageois. Alors là, vous citez, la revue Historia cite un homme qui serait à l'origine de ce qu'on a appelé de façon générique les harkis, et qui est un ethnologue, qui est Jean Servier. C'est lui qui, dès le 1er novembre, lorsque se déclenche la guerre d'Algérie, se trouve dans les Aurès, où s'est produit un des attentats qui a marqué le début de la guerre d'Algérie, et qui considère qu'au fond, il faut utiliser justement des troupes de supplétifs algériens. Quel était l'intérêt pour l'armée française de faire appel à des Algériens pour lutter, pour se battre contre d'autres Algériens?
Alors, il y a plusieurs intérêts, et c'est d'ailleurs Jean Servier qui va donner l'ensemble de ces éléments qui vont faire en sorte que la France va prendre dans ses rangs quantité de ces indigènes. D'abord, ils connaissent très bien le terrain. Deuxièmement, ils parlent la langue et ils sont capables de repérer si des personnes sont passées par là ou pas. Et comme ils se connaissent tous dans un milieu très très dur, qui est le bled ou le djebel, pour la France, c'est effectivement, ils sont pisteurs, ils sont informateurs, et ils connaissent bien, ils savent comment ça se déroule.
Contre les katibas, contre les compagnies justement de l'ALN, l'armée de libération nationale du FLN.
Oui, parce que les katibas, finalement, les personnes qui se font face, ils sont issus pratiquement des mêmes villages ou des mêmes régions. Ils connaissent parfaitement cette région. Vous envoyez des Français, des militaires français, ils se font tuer très facilement. Le fait de recruter comme ça des musulmans qui connaissent très bien la zone, la région, ça permet aussi à l'armée française de ne pas envoyer ses appelés et en même temps d'avoir là des informateurs de tout premier rang.
Musulmans dont certains sont des ralliés d'anciens membres du FLN, ralliés par l'armée française, comme ces membres du commando Georges, décorés par le président de la République française en 1960.
Le général de Gaulle décore maintenant quatre garçons du commando Georges. Regardez. Ces visages empreints de fierté.
Des hommes de choix, presque tous des volontaires. Beaucoup de Français musulmans, dont une bonne part d'anciens rebelles ralliés. Voici le commando, voici mon commando. L'adversaire, la Katiba. Ainsi, ces jeunes soldats de métropole et ces jeunes musulmans, au coude à coude sur la terre française, animés de la foi tranquille de ceux qui se battent pour un idéal juste et grand, parviendront ensemble à la victoire.
Quelles étaient les motivations, justement, de ce qu'on a appelé de façon générale les harkis Jean-Jacques Jordi, dont ceux que l'on vient d'entendre, c'est-à-dire ce commando Georges, qui était commandé par un officier français, mais qui était composé de ralliés, d'anciens du FLN qui avaient changé de camp?
Oui, alors ça c'est une pratique de l'armée, c'est-à-dire essayer de rallier un maximum de membres du FLN ou de l'ALN pour s'en servir, je dirais ensuite, contre le FLN. Mais les motivations des harkis ou des supplétifs sont nombreuses. Il y a, je crois, en premier quand même, la volonté de ne pas accepter le terrorisme du FLN, parce que le FLN frappe durement dans les villages.
Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui.
Voilà, tous ceux qui ne sont pas d'accord et tous ceux qui ne suivent pas à la lettre ces directives. Donc là, il y a vraiment la terreur est un des premiers éléments.
Mais il y a eu un massacre terrible, justement, le massacre de Mélouza en 57, au cours duquel toute la population d'un village qui était favorable à une autre organisation indépendantiste, qui était le MNA, a été massacrée.
Tout à fait. À Mélouza, il y a eu plus de 450 personnes qui ont été massacrées. Mais il y a aussi, parmi ceux qui se rallient à la France, ou ceux qui viennent directement vers la France, des considérations, je dirais, plus terre à terre, mais pas automatiquement moins nobles.
Vous voulez dire
oui, c'est peut-être la faim, c'est peut-être aussi le fait de pouvoir nourrir sa famille. Mmh. Faut pas oublier que dans cette période-là, pour la Kabylie, par exemple, et la Grande Kabylie, il y a un état de misère quasi perpétuel.
Il y a les traditions familiales aussi. Un des plus célèbres d'entre eux était un bachaga, qui était une espèce de chef local, le bachaga Boualam, qui s'était, dont la famille s'était toujours battue dans l'armée française dans le passé.
Oui, et depuis 1831, la famille du bachaga Boualam est du côté de la France. Mmh. Alors après, il va devenir effectivement l'emblème de ces harkis, lui-même n'étant pas directement harki, hein, puisqu'il est français. Je signale qu'il est même vice-président de l'Assemblée nationale, ouais, puisqu'il est député.
Et alors, il y a eu, au total, dites-vous, combien d'harkis à peu près, enfin, ou d'apparentés, si je puis dire, de groupes qui étaient rattachés à ce nom de harkis, comme les Morasni, les GMPR, les FPA, dont on a parlé tout à l'heure?
Au total, on a à peu près, entre les militaires, hein, musulmans, hein, et l'ensemble des supplétifs, des troupes supplétives, on a 200 000 personnes. Ce qui est considérable, c'est-à-dire en janvier 1961, c'est-à-dire là où le pic le plus important, on a 200 000 finalement musulmans ralliés à la France et de l'autre côté, je dirais, en face, puisque c'est une guerre, il y a 160 000 personnes à peu près qui appartiennent à l'ALN ou FLN. Donc il y a plus en 1961 de musulmans ralliés à la France que de musulmans acquis aux idées du FLN. J'ai pas dit acquis aux idées d'indépendance.
Ouais. En tout cas, jusqu'aux accords d'Évian, vous le disiez, qui en mars 1962 mettaient fin à la guerre d'Algérie et laissaient les harkis à la merci des représailles des vainqueurs.
Ici Évian, eh bien ça y est, la guerre est finie, la paix est signée à Évian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord les membres de la délégation algérienne sont repartis. La paix est signée, je vous donne rendez-vous à 19h15 pour les détails supplémentaires.
Au micro, Jacqueline Baudrier. Depuis midi, l'ordre de cesser le feu a donc été donné aux forces armées en Algérie. Que va-t-il se passer maintenant en Algérie?
Qu'est-ce que vous comptez faire?
Faut rien. Je suivrai l'armée jusqu'à ce qu'ils me disent de la quitter.
Et alors, qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là?
Ben, je sais pas. Ben, il faut que je serai entre les mains des nouveaux concurrents. Ben, je sais pas. Ça, c'est à eux de décider.
Est-ce que vous croyez que votre vie serait en danger à ce moment-là?
Oh, ma vie.
2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
Et on vient d'entendre le témoignage poignant d'un harki au lendemain des accords d'Évian. « Je suivrai l'armée », disait-il. En fait, on pouvait se douter qu'il allait y avoir des représailles, puisque de la part du nouveau ou du futur gouvernement algérien, contre ceux qui s'étaient battus contre l'indépendance, Jean-Jacques Jordi.
Oui, alors là, les archives sont très claires. On sait, les historiens savent maintenant, mais l'armée et les autorités de l'époque le savaient aussi, que le FLN et l'ALN établissaient des listes pour pouvoir punir à l'indépendance les musulmans ralliés à la France.
Et pourtant, les accords d'Évian avaient prévu le cas, nul ne pourra faire l'objet de mesures de police ou de justice, de sanctions disciplinaires ou d'une discrimination quelconque en raison d'actes commis avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu, c'est-à-dire avant le 19 mars 1962.
Oui, bien sûr, mais vous savez très bien que ces accords d'Évian ont été plus ou moins, on va dire, ratifiés par le GPRA, mais pas du tout par l'ensemble...
Gouvernement provisoire de la République algérienne, voilà, il faut le dire. Oui.
Mais pas par l'ensemble des dirigeants, oui, des différentes vilayas, donc des différentes grandes régions de l'ALN et du FLN.
Le GPRA, d'ailleurs, qui explicitement dit qu'il attendra la proclamation d'indépendance qui se produira en juillet avant de régler le sort, justement, des harkis. Si bien qu'il s'est passé relativement peu d'exactions contre eux, il y en a eu quelques-unes, vous le rappelez, avant l'indépendance. Mais alors, c'est après la proclamation d'indépendance en juillet que la violence se déchaîne contre les harkis. J'ai sous les yeux un document que vous connaissez bien, qui était le rapport d'un sous-préfet de Kabylie, le rapport de Monsieur Robert, qui était sous-préfet d'Agbou, et qui écrit ceci. Un conseiller général a été arrêté le 1er août, enterré vivant le 7 août, la tête dépassant et recouverte de miel. Son agonie, le visage mangé par les abeilles et les mouches, dura 5 heures. Dans les centres d'interrogatoire, où l'on entendait loin à la ronde les hurlements des torturés, près de la moitié des détenus furent exécutés à raison de 5 à 10 par jour. Des dizaines de harkis furent habillés en femmes, nez, oreilles et lèvres coupées, émasculés, enterrés vivants dans la chaux ou dans le ciment ou brûlés vifs à l'essence. Dans un arrondissement voisin, les harkis morts furent crucifiés sur des portes, forcés à traîner des charrues, nus sous le fouet. C'est terrible, la violence de ces représailles qui sont produites après l'indépendance, surtout en juillet, août, septembre. Jean-Luc Jordi.
Oui, c'est assez terrible, parce qu'à partir de la programmation de l'indépendance, en fait, je dirais que presque tout est permis dans l'ensemble de l'Algérie, mis à part un peu la Vilaya 3 qui fait un peu attention, mais petit à petit, cette Vilaya 3 va faire comme les autres Vilayas, c'est-à-dire qu'elle va se livrer à des représailles assez atroces.
Mais qui était responsable? Est-ce que c'est le FLN? On dit souvent que ce sont également des gens qui se sont ralliés tardivement à l'indépendance et qui en ont rajouté en quelque sorte pour se donner le sentiment qu'ils étaient favorables au FLN depuis le début, ce qu'on appelait les martiens, c'est-à-dire oui. Ceux qui sont devenus indépendantistes après les accords d'Évian en mars.
Effectivement, vous avez raison. Il y a en même temps les deux choses. C'est-à-dire qu'il y a... Un pouvoir qui est quasiment inexistant hein, dans cette Algérie de juillet-août 62. Il y a un peu un état d'anarchie, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Et puis il y a effectivement les martiens, ceux qui arrivent de mars 62 et qui étaient très attentistes et qui là ont l'occasion de montrer, entre guillemets, hein, leur attachement au nouveau pouvoir algérien. Et cet attachement, malheureusement, passe par des massacres et par des
massacres, on dit entre 10 000 et même certains chiffres disent 150 000, ce qui est sans doute la réalité entre les deux, de Harki, tandis que d'autres donc traversent la Méditerranée pour échapper aux représailles.
Un groupe de 600 Harki est arrivé à Millau cet après-midi. René Reynaud s'y trouvait.
Au long du parcours, à Nîmes, à Béziers, comme à Millau, la Croix-Rouge et diverses associations locales d'entraide avaient délégué leurs membres pour apporter des boissons et des casse-croûtes à ces musulmans qui servirent sous notre drapeau et qui ont voulu aujourd'hui revenir en métropole. Charriant de lourds sacs, les hommes, pour la plupart, portaient encore la tenue militaire. Les enfants et les femmes, dans leurs vêtements colorés mais aux teintes délavées, traînaient de maigres baluchons et arboraient de pauvres bijoux de pacotille.
Y a-t-il longtemps que vous servez dans l'armée française ?
Depuis 57.
Et vous ?
Depuis 57.
Et est-ce que vous êtes marié ?
Oui.
Est-ce que vous avez des enfants ?
Oui, j'en ai deux.
Est-ce qu'ils vous accompagnent aujourd'hui ?
Oui.
Est-ce que vos parents sont restés en Algérie ?
Non, c'est mieux, parce qu'on a peur de faire la guerre.
Et c'était en 1962 l'arrivée des premiers Harkis en France pour échapper à ce qu'ils appelaient les Félagas. Un retour très difficile que les autorités françaises ont tenté d'empêcher, Jean-Jacques Jordi. C'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui c'est encore un tabou.
Oui, parce que derrière cet empêchement, en fait, il y a aussi la volonté d'abandonner les Harkis à leur sort. Ce qui se passe dans le gouvernement français à cette époque, il y a quelqu'un qui va essayer de les défendre, c'est le Premier ministre qui est Georges Pompidou. Mais l'ensemble du gouvernement ne souhaite pas avoir de Harkis, ne souhaite pas avoir de musulmans arrivés en masse en France.
Parce qu'il y avait les familles qui venaient en même temps que leurs familles, oui.
Tout à fait, parce qu'il y avait aussi les familles qui venaient. Et donc ça a été véritablement une arrivée comme ça qu'on essaye de passer sous silence. Parce qu'il ne faut pas que les Français se rendent compte que des musulmans ont combattu pour eux, finalement, hein, pour la France. Et ces nouveaux Français, on pourrait les dire comme ça, on pourrait les appeler comme ça, vont se trouver parqués. Et le camp du Larzac est le premier camp qui va disparaître très rapidement.
Et Urivzal, Saint-Maurice, Larbadia, ils sont complètement repliés sur eux-mêmes, coupés du monde extérieur, avec des enfants qui ont du mal à accepter cette situation, qui se révolteront en 75. Mais en fait, on n'a pratiquement plus jamais parlé d'eux. C'était très embarrassant en réalité. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes pendant ces camps, pendant des années.
Oui, livrés à eux-mêmes, et en même temps, ce sont des espaces de relégation. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les camps, il peut y avoir une école ou un semblant d'école, il peut y avoir des médecins qui passent, mais il y a véritablement une sorte de contrôle militaire de ces camps-là. C'est censé les protéger contre les exactions du FLN en France, ce qui est quand même curieux.
Ouais. Et ils réclament pendant des années, ils réclameront d'ailleurs en vain pendant des années, une reconnaissance qu'ils n'obtiennent finalement qu'en 2001 avec le président Jacques Chirac.
Le moment est venu pour nous tous, Français, de porter un regard de vérité sur une histoire méconnue, une histoire déformée, une histoire effacée. Cette histoire est celle de nos frères d'armes qui attendent de la France, la patrie qu'ils ont choisie, qu'elle défende leur honneur et leur témoigne l'estime et la reconnaissance auxquelles ils ont droit. Que justice soit enfin rendue à leur honneur de soldat, à leur loyauté, à leur patriotisme.
Il a fallu attendre longtemps, Jean-Jacques Jordi, pour entendre ces mots dans la bouche d'un président de la République française, plus de 40 ans.
Oui, 40 ans, parce que à un moment donné, effectivement, je crois que l'élément déclencheur, vous l'avez dit au tout départ de cette émission, c'est aussi la phrase du président Bouteflika qui compare les harkis avec des collabos.
Ça, c'était en 2000.
Dans un premier temps, ça suscite pas tellement de levée de bouclier d'ailleurs en France parmi les parlementaires, mais très rapidement on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Mmh. Et donc le président Chirac va pour la première fois effectivement avoir ce geste de reconnaissance du drame des harkis et aussi de l'abandon finalement de ces harkis, de ces Français, de ces militaires qu'on a abandonnés à la vindicte populaire.
Alors il y a eu cette journal, un an plus tard, cette journée nationale justement des harkis qui a été décidée en 2001 je crois.
Oui, oui. C'est le 25 septembre qui est la journée maintenant nationale des harkis. Moi j'aurais tendance à dire des ex-harkis ou des Français, quoi, des Français qui ont une histoire particulière avec l'Algérie.
Et dont beaucoup ont regretté d'avoir fait le choix qu'ils avaient fait justement dans les années 50 ou 60, quand ils ont été recrutés par l'armée française. Je pense au Bachaga Boualem qui dit qu'il regrettait au fond le choix qu'il avait fait. Lui qui avait été vraiment le porte-parole, l'emblème au fond de ces supplétifs algériens se battant aux côtés de l'armée française.
Oui, mais je crois que c'est une volonté d'accuser la France, de dire vous m'avez abandonné. Si j'avais su, j'aurais peut-être fait un autre choix. Mais ça, on peut le dire que rétrospectivement, quoi. Pour le Bachaga Boualem, à mon avis, il était très très difficile de faire un autre choix que celui qu'il a fait.
Mais est-ce que cette journée nationale des harkis suffit au fond à reconnaître ce drame qu'ils ont pu vivre? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Quel est le statut de ces harkis? Parce que au fond, forcément, avec le temps, beaucoup d'entre eux sont déjà morts, mais restent leurs enfants qui eux-mêmes se sont trouvés embarqués dans le choix qu'ont fait leurs parents quelques années plus tôt.
Oui, parce que justement, ils sont passés, la plupart sont passés par des camps, mais encore qu'il faille faire la différence, la moitié à peu près des ex-harkis sont passés par les camps, l'autre moitié a pu se disséminer un peu partout en France, et il y a eu des parcours complètement, assez banal finalement, un parcours assez banal. Pour ceux qui sont restés dans les camps, c'est beaucoup plus dur pour eux, parce qu'ils sont relégués, ils sont mis à l'écart, et finalement, ils n'arrivent pas, quand ils ont 20 ans, 25 ans, à trouver un emploi. Moi, je connais encore des personnes, ça fait près de 50 ans bientôt, en 2012, qui sont en France et qui ne maîtrisent pas le français. C'est-à-dire que là, il y a eu vraiment une erreur de fait que les différents gouvernements français depuis 87, on va dire, ont essayé d'amoindrir ce trou quoi, par rapport à cette histoire.
Merci Jean-Jacques Jordi. Pour en savoir plus, je rappelle que vous avez écrit une histoire des harkis, une mémoire enfouie publiée aux éditions Autrement. On peut lire aussi, il faut lire aussi, le magazine Historia du mois d'octobre qui a consacré un dossier complet harkis pour en finir avec les tabous et dont vous êtes un des auteurs. À lire aussi les harkis, histoire, mémoire et transmission qui vient de paraître aux éditions de l'Atelier. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire La blessure, la tragédie des harkis, un film d'Isabelle Clarke et Daniel Costel, diffusé sur France 3 en septembre et qui vient d'être édité par France Télévisions. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Gilles Gaillard et Olivier Daligo, ainsi que Pascal Potvin à France Bleu Provence. Documentation Camille Pouget-Laguier, Frédéric Martin et Franck Olivard, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un tout autre sujet, les maisons closes.